Vous écoutez RTL.
7h41, bonjour Manuel Valls, bonjour Monsieur le Premier ministre.
Bonjour Yves Calvi.
Bienvenue sur RTL. Avant de vous laisser entre les mains d'Olivier Mazerolle, je rappelle l'information de la nuit, la disparition du vol Paris-Le Caire. Avez-vous des informations ?
Les informations remontent progressivement, mais il faut être prudent. Vous savez que le centre de crise du ministère des Affaires étrangères a été immédiatement activé afin de récupérer notamment la liste des passagers. ADP a activé sa propre cellule de crise et met en œuvre la procédure d'accueil des familles qui vont arriver progressivement là pour avoir des informations. Nous essayons d'avoir toutes les informations. Le président de la République devrait avoir dans quelques instants le président égyptien Sissi. Nous sommes donc en contact étroit avec les autorités égyptiennes, civiles et militaires. Les autorités égyptiennes ont déjà dépêché des équipes de reconnaissance aérienne sur place et la France est prête à participer aux recherches si les autorités égyptiennes, bien sûr, le demandent. Je crois qu'à ce stade, aucune hypothèse ne peut être écartée sur les causes de cette disparition. Et malheureusement, il y aura sans doute, et nous aurons cette information, plusieurs de nos compatriotes dans ce vol.
Inclus une hypothèse terroriste, la compagnie vient d'annoncer à l'instant même qu'il y aurait 15 Français à bord. Vous étiez au courant de ces chiffres ?
Bien sûr. Le plus important, au-delà de savoir évidemment les causes de cette disparition, c'est d'accueillir maintenant les familles de toutes les victimes.
Vous êtes désormais interrogé par Olivier Mazerolle.
Bonjour Monsieur le Premier ministre.
Bonjour Olivier Mazerolle.
Vous connaissez la puissance de l'image. Après des jours de manifestations violentes, une voiture de police a été attaquée en plein Paris, incendiée avec deux policiers à bord. Comment convaincre de l'autorité de l'État après ça ?
Mais l'autorité de l'État, elle est là. Elle s'exprime tous les jours, à chaque moment, bien sûr, face à la menace terroriste, dans la lutte quotidienne contre la délinquance. Et aujourd'hui, les chiffres de la délinquance vont dans le bon sens, puisqu'il y a une baisse notamment des violences et des cambriolages. Elle s'exprime aussi dans le maintien de l'ordre face à des individus qui veulent se payer un flic, qui veulent tuer un policier. Cette attaque d'une violence inouïe, et je vois bien, en effet, le symbole d'une voiture brûlée, avec une volonté, encore une fois, de casser du policier, de tuer du policier, ne peut pas rester impuni. Quand on fracasse une voiture de police, quand on y jette un fumigène, alors qu'il y a des fonctionnaires de police à l'intérieur, tout cela démontre incontestablement une volonté de nuire, de blesser, voire pire, et c'est inacceptable. Et l'État de droit est notre bien le plus précieux. Les sanctions doivent être donc implacables. L'enquête vient de commencer, des interpellations ont eu lieu. Les présumés auteurs faisaient peut-être partie de ceux que le ministre de l'Intérieur avait voulu interdire de toute manifestation, mais vous le savez que le tribunal administratif avait cassé cette décision.
Trois d'entre eux, justement, auraient dû être interdits de manifestation. Et est-ce qu'il y a une coordination entre la police, la justice, les services de l'État ?
Non mais Olivier Mazerolle, vous êtes non seulement un journaliste avisé, mais vous connaissez aussi le droit. Le ministre de l'Intérieur et le préfet de police de Paris ont pris les bonnes décisions, c'est-à-dire de tout faire pour écarter un certain nombre d'individus, qu'il y ait toute décision d'interdiction de s'approcher. Cette décision, qui était bien sûr motivée, a été cassée par le tribunal administratif qui agit en toute indépendance. Des noms, des listes de noms vont être de nouveau décidées pour empêcher encore une fois un certain nombre d'individus de se rendre à des manifestations, par ailleurs, je veux le rappeler, interdites. Et j'espère que, cette fois-ci, la justice administrative confirmera la décision du ministre de l'Intérieur.
Je voudrais vous faire entendre quelques instants, quelques paroles recueillies auprès de casseurs.
Si on proteste, c'est qu'on a le droit de casser. Parce que eux, quand ils rentrent chez nous, ils font une perquisition, comme ça, gratuite. Ils rentrent chez nous, ils cassent tout, ils brûlent tout, ils font tout ce qu'ils veulent.
Nous, dans nos quartiers, la police, il n'y a pas de « bonjour, nanana », c'est coup de matraque, c'est coup de jet pro. C'est pour ça qu'on dit « nique tout ce qui est en rapport avec la police ».
Face à cela, la République a encore les moyens de se défendre ?
Mais bien évidemment. Et moi, je crois que l'État de droit, la République, incarnée en l'occurrence par les policiers et les gendarmes, qui ont en plus le soutien, la solidarité, l'affection même des Français, ont tous les moyens pour se défendre. Mais nous faisons face à des individus qui, en marge des manifestations qui ont eu lieu ou qui bravent l'interdiction des manifestations, sont particulièrement violents, veulent casser du policier. Et donc, il faut agir, interpeller et faire en sorte que la justice, sur la base de preuves qui soient les plus nettes possibles, puisse condamner avec la plus grande fermeté.
Les policiers qui manifestaient hier disent tous « mais on ne comprend pas pourquoi on laisse les attroupements se constituaient, parce que lorsqu'ils sont constitués, les casseurs se mêlent aux manifestants pacifiques, et du coup, ça devient extrêmement difficile à contrôler et à maîtriser.
Hier, il n'y avait aucune manifestation officielle, légale. Il s'agissait de manifestations interdites. Donc ça veut bien dire que c'est sans doute un peu plus compliqué que cela. Il est vrai, et je le répète une nouvelle fois, il faut que ceux qui organisent les manifestations, en l'occurrence les syndicats, et nous sommes un pays libre.
Mais qui sont attaqués, vous avez vu le service d'ordre de la CGT attaqué par les casseurs.
Où le droit de manifestation est un droit constitutionnel. Et heureusement, même pendant cette période que nous connaissons, même avec une menace terroriste, même avec la mise en œuvre, nous voulons de le prolonger, de l'état d'urgence. On a heureusement le droit de manifester dans notre pays. Mais chacun doit prendre ses responsabilités. Vous avez constaté un essoufflement des manifestations. Il y a moins de monde. Mais en revanche, ces manifestations peuvent dégénérer. Elles sont plus violentes, en marge. Et je ne confonds pas ceux qui manifestent avec les casseurs.
Prendre ses responsabilités, ça veut dire quoi? Appeler moins de manifestations?
Je pense qu'il faut aujourd'hui que les syndicats, et Bernard Cazeneuve a eu l'occasion de s'entretenir avec les responsables syndicaux, je suis moi-même prêt à les recevoir, doivent en effet prendre leurs responsabilités.
Si à chaque manifestation,
ça veut dire que si à chaque manifestation il y a aujourd'hui des casseurs, on doit s'interroger sur la pertinence d'un certain nombre de ces manifestations, et en tout cas les services d'ordre, avec le soutien, bien sûr, de la police, doivent prendre toutes les mesures pour empêcher ces casseurs de se mêler à la foule des manifestants. Mais la réponse, ça doit être interpellation, dans des conditions qui sont à chaque fois très difficiles, parce qu'on voit bien ce que cherchent les casseurs, des victimes. On voit bien ce que cherchent les casseurs, à casser du policier. On voit bien ce que cherchent les casseurs, à se mélanger avec des manifestants, pour qu'il puisse y avoir une confusion. Et donc le travail des forces de l'ordre, que je veux saluer une nouvelle fois, est particulièrement difficile. Mais il n'y a aucune consigne de retenue. Il n'y a aucune consigne de ne pas interpeller. Il n'y a aucune consigne de ne pas aller jusqu'au bout pour appréhender ces casseurs.
Non, c'est le timing. On vous dit, on ne donne pas l'ordre d'intervenir suffisamment tôt.
Non, les ordres sont donnés face à cette violence à Paris, à Nantes, à Rennes, à Toulouse, d'accord, dans des conditions difficiles. Je veux rappeler que les policiers et les gendarmes doivent agir dans le cadre de l'état d'urgence face à la menace terroriste, poursuivre évidemment leur travail au quotidien contre la délinquance, assurer le maintien de l'ordre. Nous faisons face aussi à la crise migratoire. Il y a dans quelques jours, dans quelques semaines, l'Euro de foot.
Ben
donc
justement,
la charge sur les policiers et les gendarmes est particulièrement lourde. Leur tâche est difficile. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons augmenter les effectifs de la police et de la gendarmerie. C'est la raison pour laquelle nous continuons à fournir davantage de matériel de protection. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi augmenté leur régime indemnitaire et leur régime de prime, parce que les policiers et les gendarmes ont non seulement droit à notre considération, mais aussi à notre soutien et à notre engagement total. C'est le cas, bien
compte
sûr, de ce gouvernement.
Compte tenu de cette charge à laquelle les policiers doivent faire face, qu'ils doivent assumer, est-il bien raisonnable de continuer à autoriser l'organisation de fan zone durant l'Euro, où on veut réunir, par exemple, comme à Paris, jusqu'à 100 000 personnes. Vraiment, est-ce qu'on peut contrôler ça?
Oui, et toutes les conditions ont été réunies pour que la sécurité de ces fan zones dans les villes hautes, la dizaine de villes hautes qui vont accueillir les matchs de foot, puissent se réunir. Et Mazerolle, j'ai déjà eu à répondre à cette question.
Mais peut-être, je sais, mais là, on voit que la violence ne continue. Alors,
renoncer,
et les policiers vous disent, on est fatigué, on n'en peut plus.
Renoncer à des manifestations sportives, à des manifestations culturelles, renoncer à des rassemblements de fêtes, c'est précisément renoncer, non seulement face à la menace terroriste, mais face à la violence. Les maires des 10 villes, en l'occurrence pour ce qui concerne Paris, la maire de Paris, tiennent à ces manifestations. Il y aura aussi tous les moyens en termes de sécurité privée. Ce sont plusieurs centaines d'agents de sécurité privée qui ont été recrutés pour assurer la sécurité. Mais abandonner l'idée même de la fête, de ces moments de rassemblement festif et populaire, ce serait renoncer face à cette violence inacceptable. Et les mots que nous venons d'entendre de la part de ces casseurs montrent qu'il n'y a qu'une seule réponse, celle de la fermeté, de l'autorité, de l'état de droit et de la sanction. Quand on s'attaque encore une fois à des policiers, d'accord, et qu'on veut tuer des policiers, la justice doit passer particulièrement sévèrement. Je vous rappelle qu'il y a un lycéen qui a été interpellé, qui faisait partie de cette bande qui a voulu tuer un policier, et j'espère qu'il sera, si c'est bien lui qui est confondu par les preuves qui seront réunies, qu'il sera condamné le plus sévèrement possible.
Patrick Calvar, qui est directeur général de la sécurité intérieure, a dit devant des députés, une commission qui l'entendait, la France est le pays le plus menacé par le terrorisme. Ce matin, l'Assemblée nationale va voter le renouvellement de l'état d'urgence, mais sans le maintien des perquisitions de nuit. Est-ce qu'on est en train de diminuer l'état de vigilance?
Non, pas du tout. Nous ne baissons pas la garde. Le directeur de la Direction générale de la Sécurité intérieure, Patrick Calvar, n'a fait que rappeler cette évidence que le président de la République, moi-même ou le ministre de l'Intérieur avaient déjà eu l'occasion de rappeler. Oui, nous sommes une cible, et sans doute la cible numéro un de l'État islamique, de Daesh. D'autres pays sont visés, nous le savons bien, avec ce qui s'est passé en Belgique il y a quelques mois. Ça veut bien dire qu'il y a cette menace. Face à cette menace, il faut continuer à vivre, notamment quand on accueille de grands événements sportifs, ça sera le cas avec l'Euro et bien sûr avec le Tour de France. Mais ça veut dire qu'il faut continuer le travail. Vous savez, tous les jours, la police française démantèle des filières d'acheminement de djihadistes vers la Syrie ou l'Irak. Tous les jours, on interpelle, tous les jours, on croise des informations. Il y a une action au quotidien pour faire face à cette menace terroriste. Il n'y a pas de risque zéro. En revanche, il y a un engagement total et absolu de nos services de police, de gendarmerie, de nos armées à travers le plan Sentinelle et bien sûr des services de renseignement. Et je rappelle que depuis 2012, nous n'avons eu de cesse de renforcer les moyens pour la sécurité, le renseignement et pour faire face à la menace et aussi à toute forme de violence. Je vous demande de lire l'intervention qui fut la mienne comme ministre de l'Intérieur au Sénat en novembre ou en décembre 2012, et je pointais toutes les menaces et tous les dangers, notamment celui de cette extrême gauche et de ces groupes de casseurs. Donc l'autorité de l'État, monsieur Mazerolle, nous l'incarnons pas seulement dans les mots, mais dans les actes. Quand dans le quinquennat précédent, on a supprimé 12 000 postes, qu'on a mis fin aux renseignements de proximité, qu'on a baissé les budgets de l'investissement, je n'ai de leçons à recevoir de personne. Nous avons augmenté les postes de policiers et de gendarmes, 9 000. Nous avons augmenté les moyens d'investissement de la police et de la gendarmerie. Nous avons réformé les services de renseignement pour qu'ils soient plus efficaces, parce que ma fonction, ma mission, c'est de protéger les Français face à toutes les violences et à toutes les menaces.
Alors je vais vous rappeler également ce que vous aviez dit. C'était le 8 avril 2014, votre discours de politique générale. Parce qu'il n'y a pas que les casseurs qui sont dans les rues, il y a des Français qui n'ont plus de perspective. Et vous disiez, la langue de la République est devenue une langue morte. Mais pour beaucoup de Français, deux ans après, elle est toujours une langue morte. Et d'ailleurs, hier soir, à Évry, devant vos amis, vous disiez, il manque un projet de société, il manque un destin. Quel constat après 4 ans de présidence Hollande?
Non, quel constat depuis des années et un peu partout, pas seulement en France, mais dans nos sociétés européennes ou occidentales. Il y a une crise, bien sûr, de la représentation de la démocratie. Il y a une crise de la politique, du rapport entre les citoyens et la politique. Je ne suis pas le premier, bien sûr, à faire ce constat. Beaucoup a été engagé au cours de ce quinquennat, et avec des résultats sur le plan économique, avec la refondation de l'école.
Vos amis, hier soir, vous ont posé des tas de questions qui montrent qu'ils ne sont pas du tout convaincus. Vous avez dit sur l'éducation, sur l'entreprise.
Il y a eu beaucoup de questions sur l'entreprise, mais sur
l'école. Ne savent pas.
Chacun salue ce qui a été engagé, alors que l'école avait été, notamment la formation des maîtres, saccagée au cours du quinquennat précédent. Nous avons remis la formation des maîtres, nous avons créé 60 000 postes d'enseignants au cours de ce quinquennat, nous avons augmenté la rémunération des enseignants, nous faisons de l'école prioritaire, c'est-à-dire dans les quartiers populaires, une priorité. Nous avons aussi augmenté le RSA, nous avons créé la prime d'activité, la garantie jeune. Mais toutes ces mesures doivent démontrer davantage ce qu'est notre dessein, le projet pour la France, le projet de société, c'est-à-dire un projet pour les créateurs, pour ceux qui, sur le plan culturel, sur le plan de l'entreprise, veulent créer davantage, veulent donner plus de chances.
Deux questions concrètes. Mais je suis dans le concret, si vous voulez bien. D'abord, les députés ont voté hier un amendement parlementaire qui prévoit de donner le dernier mot aux actionnaires et non plus au conseil d'administration sur les salaires des patrons. Est-ce que le gouvernement va appuyer cet amendement?
Bien sûr, parce que dans le projet de société que je défends, bien sûr qu'il n'est pas immoral de bien gagner sa vie. Mais ce qui est immoral, ce sont ses rémunérations. Et ce qui est immoral, et ça participe de cette crise politique, c'est de s'augmenter les rémunérations de cette manière sans se rendre compte des dégâts que cela peut représenter.
Est-ce que vous appuyez?
Oui.
Est-ce que cet amendement, appuyez les signataires d'une tribune dans Libération ce matin, parmi lesquels Claude Bartolin, Jean-Christophe Cambadélis, qui demande la limitation des rémunérations des patrons à 100 SMIC, c'est-à-dire à 1 750 000 euros par an?
Est-ce que je peux vous répondre un peu précisément ? Nous avons agi depuis 2012 pour encadrer les rémunérations des dirigeants d'entreprises. Plafonnement à 450 000 euros bruts par an dans les entreprises publiques. Renforcement de la fiscalité des stock options et des retraites chapeaux. Nous avons fait également le choix, dans un premier temps, de mettre les entreprises face à leurs responsabilités, en l'occurrence le patronat. Force est de constater que cela n'a pas été respecté. Donc maintenant, il faut légiférer. Il y a eu les amendements dans le cadre de la loi Sapin 2,
votés par les groupes socialistes. La limitation à 1 million.
En faisant attention, parce qu'il y a aussi des risques d'inconstitutionnalité. Mais cet appel que j'approuve montre bien le chemin qu'il faut prendre. Donc il faut donner aux actionnaires davantage de pouvoir pour que ceux qui s'augmentent ces rémunérations puissent, devant leurs actionnaires, revenir sur ces décisions si c'est nécessaire.
Dernière question, comment allez-vous les réformateurs qui plaçaient tous leurs espoirs en votre nomination à Matignon commencent à se tourner vers Emmanuel Macron. C'était le cas du maire de Lyon hier. Vous allez bien, monsieur le Premier ministre ?
C'est difficile, pas pour moi. Vous savez, quand on a commenté la violence vis-à-vis des policiers et des gendarmes, j'étais ministre de l'Intérieur et je sais leur travail. Quand je dois répondre à une question sur cette disparition d'un avion, bien sûr que c'est difficile, mais pas pour moi, pour les Français, pour les victimes de ces violences, pour les familles qui, au moment où nous parlons, sont plongées dans l'angoisse.
Est-ce que vous pouvez supporter ça ?
Nous avons parlé de la crise de politique. Et pardon de vous le dire avec toute la considération que j'ai pour vous, mais c'est précisément ce genre de questions qui n'intéressent pas les Français. Les Français ne s'intéressent pas à savoir si je vais bien. Ils veulent savoir comment on peut agir pour que le pays aille mieux, pour que chacun d'entre eux aille mieux. C'est ça qui intéresse les Français. Et moi, avec tous les événements que nous avons connus, avec la gravité des faits de 2015, les attaques terroristes, la menace terroriste que nous avons évoquée il y a un instant, je suis plus que jamais déterminé à poursuivre ma tâche. C'est cela, faire preuve de responsabilité. C'est ça, privilégier l'intérêt général. C'est ça, le sens de l'État. Il y a trop de gens qui oublient le sens de l'intérêt général, le sens de l'État. Et ceux qui gouvernent, ils n'ont qu'une seule mission, gouverner pour les Français et avoir le sens de l'État.
Merci, monsieur le Premier ministre.